Lorraine Gilet-Colombine, vous êtes installée sur la ferme sous les Mours où vous avez donc
des chèvres.
Comment vous êtes arrivée ici? Comment ça s'est passé?
Donc moi j'étais déjà en activité depuis... ça fait 13 ans que je suis en activité. On avait été en location à différents endroits et puis on était en recherche de foncier. Et ici ça se vendait mais à des non-agriculteurs, donc ça a été préempté par la SAFER. Et ça nous a été rétrocédé à nous. On a fait appel, on a rendu notre candidature. C'est nous qui avons été retenus, puis il y avait un peu urgence quoi, parce qu'on se recasse. Et donc on est arrivé ici, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de bâti. On est sur ce site qui est un peu isolé, donc pour l'eau on est sur forage. L'électricité, on est sur panneaux photovoltaïques. Ils sont installés là-bas dans le champ un peu plus loin, 20 mètres carrés de panneaux, quelque chose comme ça. Ils sont au sol parce que le bâtiment d'élevage, là, il a été construit après. Quoi. L'électricité, c'est un des premiers trucs qu'on a mis en place et lui, il est arrivé après. Et donc, ils ont d'abord été dans un tunnel, les chèvres qui est un peu en contre-haut, en attendant que donc, ce bâtiment en bois soit fait. Donc, c'est mon compagnon qui est charpentier qui l'a intégralement monté. C'est du bois qui venait de Lubaille. On avait fait venir un surmobile qui avait tout. Tout a été coupé sur place en fait. Après Gilles a fait tous ces assemblages, monter les fermes quoi. On a fait ça ici. Puis Gilles là du coup mon compagnon est beaucoup sur les aménagements extérieurs, les mises en culture un peu des parcelles de ce qu'on a. Même si on a maintenant il y a 3 hectares ici, on a récupéré 3 hectares en face à la location, donc on va vraiment gagner là sur les prochaines années normalement une autonomie fourragère. Après le reste de l'alimentation c'est prélevé par la garde, donc 4 heures l'hiver où elles sont dehors en colline jusqu'à 6 heures l'été. L'été, c'est juste que la garde, elle est coupée en deux. On garde tôt le matin et tard le soir. Et un peu plus tard le soir, parce que pour éviter la grosse chaleur du milieu de journée. On était rentré aussi dans un programme de replantation de haies avec la DRAF, Direction Régionale de l'Alimentation Agriculture Forêt, qui avait mis un peu des sous sur la table pour qu'il y ait des linéaires de haies qui soient replantées. Donc on a replanté sur les parcelles du bas, un peu de trucs contour. Alors nous ici, on est beaucoup dans une monoculture de chêne blanc, mais la liste a été assez bien fichue. Il y a vraiment plein d'espèces dans lesquelles on pouvait taper, mais de trucs vraiment de la région, à la fois des petits fruits, des trucs plus ligneux, quoi. C'est assez varié. On avance là sur du stockage d'eau, donc là-bas on entreaperçoit une mare, quoi, une grosse bassine. Une petite retenue d'eau, c'est rien, il y a 15 mètres cubes, je pense, au mieux. Donc c'est les autres collectes des toitures de la bergerie. Et un peu plus bas, on a une autre poche à eau, là, type poche incendie, là, de 25 mètres cubes, pour soutenir un peu tous ces petits arbres qui vont avoir besoin, parce que là, il fait beau, il a beaucoup plu, mais à un moment, il va faire chaud, c'est sûr.
Il y a combien d'hectares?
Alors nous, quand on a acheté 10 hectares, donc on a 3 hectares là-haut. Plat sur la crête, on va dire, et puis on a 7 hectares au ravin là derrière, et après on est entouré d'un gros lot là de parcelles communales, donc ouais. Tout ce qui est au-dessus, en dessous du parking des Mours, toute une pointe là qui descend comme ça, en hectare, je pense que ça représente une trentaine d'hectares. Et du coup, en plus, Terre de Liens a fait l'acquisition là, un petit peu plus haut, donc au-delà, un peu au-delà du site des Mours, de quasiment 60 hectares de forêt. Mais une forêt qui n'est pas très dense, avec beaucoup de ligneux au sol. Il y a vraiment là, moi j'y suis allée garder cette semaine, il y a plein à manger. Et à la partie extrême de laquelle, il y a des abreuvoirs maçonnés avec une surverse d'une source, donc c'est vraiment génial. Et du coup, l'acquisition faite par Terre de Liens va être mise en location à nous pour 20 hectares sur un îlot, 40 hectares. Une ferme voisine qui a des bovins notamment. Pareil, c'est du bovin extensif, donc il se déplace dans la colline parquet, ouais, à la Paris, voilà. Donc moi, là, on part regarder là-bas, ce qui fait qu'on récupère une surface de pâturage. Donc pour nos rotations de pâturage sur l'année, c'est vraiment super. Et on récupère quelque chose de meilleure qualité. Les Mours, c'est super, c'est très beau, mais il y a quand même beaucoup de cailloux. Voilà. À l'évidence, les chèvres sont ravies. Hein.
Oui, elles peuvent sauter. Du coup, tu as une autorisation communale pour passer dans les...
Convention pluriannuelle de pâturage avec la mairie et avec Terre de Liens. Alors ça, c'est en cours. Je crois qu'on a un bail... C'est un bail long terme, un bail environnemental, je crois. Ça s'appelle... Alors, je rentrerai pas dans le détail parce que je les connais pas et que tout ça, c'est encore chez le notaire. Là, c'est en train de se tramer, mais on a déjà les autorisations pour circuler. Mais en tout cas, c'est un bail longue durée. Donc en gros, c'est le temps où nous, on est exploitant ici de la ferme, on y aura accès, quoi. Et ça nous donne vraiment donc une poche supplémentaire là sur le pâturage d'hiver. Et sur le pâturage d'été, là, on se rapproche plus de la ferme. Il y a de l'eau, en fait, dans les deux ravins. Donc, plus de couvert végétal. Donc, l'été, on est un peu plus près, là. On pâture un petit peu plus près.
Et alors, donc, Colline, tu es chèvrière et tu visites la ferme aujourd'hui. Pour pas que Lorraine répète la visite. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça fonctionne, la lactation longue ? J'ai pas tout compris.
En gros, avec des chèvres, bah, comme tout animal, on a des cycles. Et du coup, la chèvre lance son cycle à partir de, je sais plus quand c'est exactement d'ailleurs, août.
Les chèvres, elles ont des cycles, donc des chaleurs, qu'une partie de l'année. Donc souvent, ouais, ça peut se déclencher août, des fois s'il fait trop chaud, septembre. Et elles ont 6 mois de cycle.
En général, elles se reproduisent à ce moment-là. Et donc avec 5 mois de gestation, on a la naissance des petits qui arrivent en début d'année, février, mars. Avril, ça dépend, bon voilà. Donc nous, en exploitation, on gère ça beaucoup. On fait en sorte que toutes les chèvres soient prises en même temps pour faire leur mise bas tout en même temps. Et donc, il y a un cycle naturel qui fait qu'elles arrêtent de faire du lait à peu près à la fin de la saison, en général fin novembre, par là. Et il y a la possibilité de continuer de leur tirer du lait en permanence, comme une maman peut allaiter un enfant jusqu'à je ne sais quel âge, si on fait ça en continu. Et ça permet du coup d'avoir du lait sur les périodes où toutes les personnes qui suivent les saisons normales n'en ont pas.
Ça vous permet, Lorraine, d'avoir du fromage en hiver et...
Ouais. Nous, on s'est orienté vers la lactation longue pour une raison en fait qui n'était pas du tout celle d'avoir une raison principale qui n'était pas celle d'avoir du lait d'hiver, mais de plutôt limiter du coup la naissance du nombre de chevreaux, parce qu'on est dans une région où le gros des élevages caprins là est sur le cycle décrit juste avant, avec donc des mises bas fin d'hiver début de printemps. Il faut se dire comme une chèvre peut faire à peu près en moyenne, je dirais qu'il y a autour de 2 petits par chèvre. Il suffit d'un troupeau de 40 chèvres pour avoir déjà 80 chevreaux. Et bien souvent, là, dans les fermes de la région, ces chevreaux, ils sont livrés à un engraisseur à 10 jours à peu près. Ils sont élevés dans des conditions qui, pour moi, ne sont pas du tout satisfaisantes et destinés à du marché export. Et en fait, moi, je voulais sortir de ce système-là. Et la lactation longue, c'est ce qui nous a permis de sortir de ce système-là, puisque je mets à la reproduction un nombre de chèvres déterminé, donc je sais à peu près ce que je vais avoir en février comme nombre de chevreaux. Les chevreaux, ils naissent, ils grandissent à la ferme pour une partie abattue et vendue en colis de viande. Mais voilà, ils ont grandi à la ferme, ils ont profité de la colline, ils ont mangé correctement. Et puis, par contre, les femelles, voilà, elles restent, quand je peux, je les vends pour un autre troupeau. J'en garde moi-même plusieurs pour le renouvellement de mon propre troupeau. Les chèvres qui sont restées en lait, qui n'ont pas été donc saillies à l'automne, sont traits tout l'hiver, puis en continu. Et alors, je constate que, effectivement, il y en a qui tiennent très bien cette lactation longue. Il y a des chèvres dans le troupeau qui sont en lait depuis 4 ans maintenant et qui n'ont pas eu besoin de passer par une phase de reproduction pour réamorcer un cycle de lait. Je vois qu'il y en a qui tiennent un petit peu moins bien. Celles-là, je sais qu'elles feront partie du lot à reproduire en septembre. C'est un choix que j'ai fait et j'en suis contente, mais surtout pour le bien-être de mes chevreaux qui naissent ici et qui passent toute leur vie ici dans des conditions que je connais et que je maîtrise. Quoi.
Donc aujourd'hui, de faire mon ferme organisée par le CIVAM, prône donc des agricultures et des élevages respectueuses de l'environnement. Donc on voit que les paysans paysannes, les éleveurs et éleveuses s'engagent. Comment on fait pour vivre avec conviction là et en vivre en fait ? Vous y arrivez aujourd'hui ? On concilie
Oui, on arrive à en vivre. Peut-être qu'on n'a pas d'exigences financières extraordinaires. Hein. Moi, je ne vous cache pas que je pense qu'on vit, à deux avec pas 2 SMIC, on vit plutôt à 2 avec 1,5 SMIC. Et après, par contre, ce qu'on a fait le choix, c'est d'avoir un peu de salariés pour nous libérer du temps. Et en fait, moi, j'ai préféré passer de l'argent à employer quelqu'un qui va un peu me soulager du temps parce que ça va me permettre du temps avec ma fille, pour mes activités syndicales ou pour juste faire autre chose, me reposer. Ça, c'est un choix déjà vraiment que j'ai fait. Et on vit de manière peut-être aussi relativement simple. On a une petite maison, on vit beaucoup en extérieur, on produit une partie de la nourriture qu'on consomme. Donc, de fait, on a peut-être moins d'exigences financières. Et après, pour ce qui est du bien-être des animaux, voilà, moi, je suis hyper attachée à la manière à la conduite de notre troupeau. Alors, ce qui, certes, prend beaucoup de temps dans notre organisation, puisqu'elles sortent tous les jours de l'année, sauf pluie, entre 4 et 6 heures par jour, en fonction de la saison. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le bien-être, il est là. C'est des bêtes qui sont dans la colline, qui se dépensent, qui prélèvent la nourriture qu'elles ont envie de manger. Et une nourriture qui varie au fil des saisons. On a la chance d'être sur un territoire où on a beaucoup de variétés d'arbres, de buissons, de ligneux, de fleurs. Vraiment une nourriture qui est extrêmement variée. Et ça, voilà, ça fait aussi partie, moi, du bien-être de mon troupeau.
C'est la fin du week-end de Ferme en Ferme. Comment ça s'est passé? Vous avez du monde, vous êtes contents? Il a plu, hein, on le rappelle, il a plu. Je sais pas si vous avez parlé aux collègues qui le faisaient aussi ou pas encore.
Alors j'ai eu un collègue ce matin parce qu'il m'a envoyé un bus. Hein, un bus. Il m'a envoyé, il a proposé à des gens de venir. Là, il m'a appelé pour s'assurer que voilà, on était bien là. Effectivement, on a eu. Alors, étonnamment, ce matin, il a plu. Je pense qu'on a eu, énormément de monde en début d'après-midi, là, ce dimanche. Samedi, hier, c'était relativement calme, si je compare à l'an passé. Alors après, l'an passé, le samedi, il avait fait très, très beau. Mais on a quand même eu hier, je crois qu'on a pas loin de 70 personnes qui sont passées sur la ferme, adultes, enfants confondus. Et aujourd'hui, alors, j'ai un peu perdu le fil, mais je pense que, à mon avis, on est au moins autant qui ont circulé que sur l'après-midi. Et là, le copain que j'ai eu m'a dit qu'ils avaient eu 130 personnes hier et qu'il y avait eu à nouveau bien, bien du monde aujourd'hui. Finalement, là, on voit que ce qui attire beaucoup, c'est qu'on propose que les gens restent à la traite le soir, parce qu'on traite de manière manuelle. Les chefs sont attachés dans la bergerie. Ça permet à tout le monde un peu de circuler, de voir, d'essayer s'ils ont envie. Et hier soir, il y avait beaucoup de monde à la traite et j'ai des personnes qui m'ont appelé ce matin. Je pense qu'il y aura à nouveau du monde là pour la traite ce soir.
On organise un repas aussi, non?
Alors, on avait organisé un repas, mais jeudi matin, au vu de, comment dire, de la météo. Et alors, hier, il n'a pas fait si mauvais finalement, mais ils annonçaient 9 degrés de ressenti de vent avec 50 km/h de vent. Et en fait, on a préféré décommander les repas. Et ce qu'on avait proposé aux gens, c'est de venir quand même pour ceux qui avaient envie. Et on a fait juste des petites assiettes. On n'a pas fait. L'an passé, on avait fait un vrai repas à table avec entrée, plat, dessert. Voilà, c'était très sympa, mais voilà, le temps s'y prêtait. Hier, je pense que ce n'était pas approprié. On a proposé ces assiettes. C'est aussi, toujours, moi j'aime bien, c'est de faire aussi un peu découvrir la viande de chevreau, qui est finalement pas très répandue, pas très reconnue. Et moi, je trouve que c'est une viande qui a vraiment plein de qualités. Et donc, on fait toujours un repas autour du chevreau petit épeautre. C'est un peu notre pas phare pour l'événement.
On peut finir sur une touche un petit peu plus politique. On s'était croisé à la Confédération paysanne dont vous êtes syndiqué. On en est aujourd'hui de la gronde du mouvement agricole.
Au niveau national, alors j'ai pas perdu le fil, mais là dans l'organisation du week-end, je sais qu'il y a eu des annonces de Gabriel Attal hier qui a priori sont pas du tout satisfaisantes, mais je suis pas du tout rentrée dans le détail, j'arriverai pas. Par contre, le truc de fond qui reste, c'est que on n'a toujours pas de mesure en fait sur la demande qui est le revenu paysan. C'est-à-dire qu'on a des abattements fiscaux, on a des promesses de payer moins d'impôts si on vend notre ferme. Alors c'est formidable, mais tout ça, ça résout rien sur le revenu paysan au quotidien et la valeur de nos produits et d'être payé à la hauteur de la qualité de ce qu'on produit. Et ça, on voit bien que là-dessus, on n'est pas entendu.
J'imagine que la PAC ne subventionne pas beaucoup par ici.
Alors si, paradoxalement, la PAC subventionne parce qu'on est sur ce qu'on appelle des territoires où il y a des territoires de montagne avec ce qu'on appelle une indemnité compensatrice de handicap naturel, alors qui est très captée par des très gros élevages parce que c'est entre autres proportionnel à ce qu'on appelle le chargement, donc le nombre de bêtes rapporté au nombre d'hectares. Donc il y a une forme un peu de captation là-dessus, alors qui aide à vivre en zone de montagne, hein, et c'est très intéressant. Mais du coup, ça pousse un peu certains troupeaux à être très très gros. Mais c'est. Je ne sais pas si. Ici, en tout cas, moi, dans mon entourage, moi, je suis en vente directe, donc je dirais que mon prix, je peux à peu près le faire. Mais sur des gens qui vont être sur des filières plus longues, qui servent à alimenter aussi les gens qui sont en ville, les supermarchés, parce qu'aujourd'hui, on ne s'en passera pas tout de suite. Là, on voit bien que les rémunérations, elles n'y sont pas. Et qu'en tout cas, le prix de revente, il est capté par les intermédiaires, quoi, par l'agro-industrie. Et c'est pas, les paysans ne sont pas rétribués à la hauteur de ce qui est juste valeur de ce qui est produit.
Colombine, 12 ans, tu vis sur l'élevage de la ferme des Mours. Comment tu vis aujourd'hui d'être fille de paysan, paysanne? Est-ce que tu participes un peu?
Oui, des fois, je participe à la traite et à la fromagerie et au marché.
Et tu penses que tu voudras faire ça quand tu seras grande?
Non. Je fais de l'équitation et j'aimerais travailler dans les chevaux.
Et c'était bien ce week-end? T'as vu des copains-copines? Il y a eu du monde?
Oui, il y avait un peu de monde, mais pas beaucoup, beaucoup. Mais quand même bien.
J'ai vu que c'est toi qui étais en charge de la caisse.
Oui, j'ai vendu des crêpes et, voilà, et des cookies.
Et des fromages.
Et des fromages.
Gérard, bénévole à Terre de Liens, vous êtes aujourd'hui sur la ferme sous les Mours pour présenter un peu le dispositif. Et il me semble que Terre de Liens vient d'acquérir...
Carrément 55 hectares, oui, de forêt boisée, enfin de forêt boisée forcément, mais de forêt avec un peu de pâturage, ce qui va permettre donc à Lorraine et à Claire et Damien Joubert de s'agrandir un petit peu. Ils avaient fortement besoin d'avoir quelques hectares supplémentaires. Donc Terre de Liens a eu l'opportunité d'acquérir le secteur qu'on appelle les Giro-10. Après avoir déposé un dossier auprès de la SAFER, puisqu'on doit fonctionner comme ça, puisque Terre de Liens a un partenariat avec la SAFER 04, et Terre de Liens a toujours des partenariats avec les SAFER, parce que ça les affaires qui gèrent le foncier agricole. Donc notre dossier a été retenu et on a donc le plaisir de faire bénéficier Claire et Lorraine de ces terres supplémentaires où elles vont pouvoir mettre leurs animaux respectifs, en l'occurrence les chèvres pour Lorraine et puis des bovins pour Claire et Damien. Voilà.
Et on peut rappeler un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas Terre de Liens le dispositif, le principe. C'est une association, non, c'est une. On va rappeler le dispositif de Terre de Liens.
C'est un mouvement citoyen. Donc chacun peut faire partie de ce mouvement citoyen en tant que bénévole, en tant qu'adhérent, en tant que donateur, etc. En fait, c'est divisé en trois parties Terre de Liens. Il y a le côté associatif, effectivement, on adhère à une association. Donc pour info, c'est 30 euros à l'année si vous êtes imposable, c'est 10 euros si vous ne l'êtes pas. Par contre, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la fondation. Donc, c'est elle qui recueille les dons qui sont faits à Terre de Liens. Et là, pour le coup, donc, si on est aujourd'hui sur la ferme de Lorraine, c'est parce que donc, nous, Terre de Liens, on a avancé l'argent, donc en gros 60 000 euros pour ces 55 hectares. Et que donc, on souhaiterait, on a lancé donc, une épargne citoyenne pour pouvoir récupérer en quelque sorte l'argent qu'on a fait en avance pour pouvoir acquérir dans le futur plusieurs autres terres ou fermes qui seront présentes à la vente. Quoi, voilà.
Du coup, là, vous mettez en location à Lorraine et Claire, c'est ça
des... Voilà, donc on leur met, effectivement, c'est Terre de Liens qui reste propriétaire des terres. On les loue, nous, effectivement, aux agriculteurs avec lesquels on est en contrat, par le biais d'un bail rural environnemental. Donc, à une durée qui est déterminée entre nous selon le contrat. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les agriculteurs ou les néo-paysans qu'on installe doivent être en bio. Ça, c'est la charte. Hein. Et voilà, donc on fonctionne comme ça. Pour l'instant, je crois qu'on a mis en place quelque chose comme 700 agriculteurs en France, à peu près. Hein. Ça doit représenter en gros 300 fermes supplémentaires, donc depuis quelques années. Ça fait 20 ans que l'association et que le mouvement citoyen existe. Donc voilà, le troisième pan, hein, je n'ai pas terminé tout à l'heure, il y a effectivement l'association d'un côté, la fondation de l'autre, la foncière donc, dont je viens de parler. La fondation, elle recueille les legs et les dons qui peuvent être faits donc, à Terre de Liens. C'est-à-dire que si vous avez des terres, vous ne savez pas quoi en faire, vous avez envie de les céder à quelqu'un, Terre de Liens peut être le receveur et bénéficier de ces terres pour en faire profiter les paysans installés. Quoi, voilà.
Et il y a d'autres actions dont vous voudriez parler ?
On ne parle jamais. Alors, il y en a quelques-unes dans le secteur qui sont en cours, mais on n'en parle pas par avance parce qu'effectivement, quand on a un dossier à mettre en place, il n'est pas forcément retenu. Donc, ce n'est pas la peine de faire courir des bruits qui ne seront pas tenus dans la durée. Quoi. Voilà. On en a quelques-unes, effectivement, et c'est tant mieux.
Mais vous me disiez, il y a la fête des possibles. Comment vous êtes retrouvé associé au CIVAM et à l'événement de Ferme en Ferme ce week-end ?
Tout simplement, justement, parce qu'effectivement, on avait mis à disposition, donc, par l'achat de ces terres de Giro-10, des terres pour Lorraine et pour Claire. Bon, Claire et Damien n'ont pas pu cette année faire partie de Ferme en Ferme. Donc c'est Lorraine qui, encore une fois de plus, a saisi l'occasion. Nous, on est là présent, justement, pour faire connaître Terre de Liens. Et en même temps, on a toujours besoin d'adhérents supplémentaires et de bénévoles, etc. Donc on peut lancer un appel en disant que tous les gens qui peuvent être intéressés pour rejoindre Terre de Liens, c'est quand même quelque chose de concret qui a été mis en place par Terre de Liens, on aura besoin de paysans de plus en plus, puisque je crois qu'à l'échéance 2030, il y a à peu près 45% de paysans qui vont prendre leur retraite. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions si on veut continuer à avoir une paysannerie qui tienne la route. Quoi.
Du coup, si on veut soutenir Terre de Liens, les bénévoles, si on a du temps et qu'on veut être bénévole, on peut faire quoi concrètement? Et après, on donnera les informations pour vous contacter.
D'abord, on peut s'adresser à toutes les personnes de Terre de Liens qui viennent des stands comme aujourd'hui. Ensuite, effectivement, Terre de Liens est divisée en plusieurs fédérations locales, régionales, on va dire. Et pour le compte de PACA, c'est sur Avignon. Quoi. Voilà, on peut s'adresser à Avignon. On a une adresse mail, effectivement. On a un site national. www.terredeliens, tout attaché, donc terredeliens.org. Donc là-dessus, vous allez trouver toutes les informations nécessaires, y compris ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire la division du mouvement en trois pans, l'adhésion, l'épargne est donnée s'agissant des legs et de la fondation. Enfin voilà, vous avez toutes les infos nécessaires. Il faut savoir aussi que pour les paysans qui chercheraient éventuellement à céder leurs terres à Terre de Liens et les éventuels agriculteurs qui souhaiteraient trouver des terres. On a un site spécifique qui s'appelle Objectif Terre, sur lequel chacun peut aller voir. Et puis en ce moment-là, c'est un genre de site petites annonces où on peut trouver ce qu'on cherche, si tant est qu'on a du foncier agricole à faire partager, quoi.
Ça s'est bien passé ce week-end, là, même s'il pleuvait, alors ?
Alors moi, je n'étais là parce qu'on s'est réparti les tâches. Moi, j'étais là cet après-midi. Ce matin, on n'a pas pu venir vu le temps. Et donc cet après-midi, on a pas mal de visites. Hein. Alors on a 15-20 personnes d'un coup. Après, il y a un trou d'une demi-heure. Mais enfin, aujourd'hui, je pense que ça s'est pas mal passé, oui.